va ? Hein ?
Je repasse la parole à Pierre Royan.
À la différence des autres espèces animales, même de celles qui ont une organisation collective, les êtres humains ont transformé leur milieu environnant, plus ou moins radicalement selon les sociétés considérées. Peu ou très peu pour les chasseurs-cueilleurs, nettement plus pour les agriculteurs et considérablement plus pour la société capitaliste moderne avec l'apparition de la grande industrie où pratiquement tout ce qui nous entoure, même souvent ce que on caractérise abusivement de naturel, est en réalité le résultat de la main de l'homme, des travailleurs en l'occurrence, et il faudra ajouter, pour être plus complet, le résultat d'une chaîne d'opérations qui aujourd'hui met en œuvre à peu près l'ensemble de l'humanité. La vie, voire la survie des hommes, ont toujours été directement liées à cette capacité de pouvoir transformer la nature pour produire de quoi se nourrir, de quoi se protéger des intempéries, se loger, se vêtir, répondre à bien d'autres besoins plus complexes engendrés par le développement de la société elle-même, comme se déplacer, échanger des objets, des idées, transmettre des connaissances, soigner des malades ou des blessés. Chaque société a répondu à ces problèmes, ou au moins aux plus essentiels d'entre eux, en fonction de ses moyens, qui sont d'abord caractérisés par le degré de technicité, les connaissances et le savoir-faire de chaque groupe humain à un moment donné. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs ont en général un niveau technologique très bas. Certes, perdu dans la brousse d'Afrique du Sud, il vaut mieux se retrouver en compagnie d'un San qui connaît la flore et la faune locale, qui sait se repérer pour trouver de quoi vivre dans un environnement qui nous semble désertique et vide, plutôt que d'être avec un ingénieur en physique nucléaire. Mais cela n'empêche pas que la faible capacité de ces sociétés à transformer la nature qui les entoure les place souvent à la limite de la survie. Nombre de ces sociétés primitives subissent régulièrement des périodes de famine, et on ne connaît d'ailleurs que celles qui ont survécu. Bien d'autres ont disparu. Chez les chasseurs-cueilleurs en général, il n'y a que très peu de surplus, en tout cas très peu de surplus durables qui permettent d'accumuler et donc d'évoluer. Pendant des millions d'années, pour assurer leur subsistance, les ancêtres de l'humanité devaient se contenter de cueillettes, de charognes, puis de chasses. Des traces ont été laissées par ces hommes, des squelettes, des outils, et même à partir d'une époque plus récente, des peintures. Tout au long de cette évolution, sur des échelles de temps considérables, les archéologues ont vu la trace d'un très lent mais fondamental progrès technologique. Les outils que l'on a retrouvés, correspondant aux différentes périodes, mettent en évidence cette évolution des techniques. La pierre, seul matériau conservé pour les périodes les plus anciennes, a été travaillée avec une efficacité croissante. Sur les premiers outils connus, vieux de 2,5 millions d'années, seulement 10 cm de tranchant étaient obtenus à partir d'un kilo de matière. 2 millions d'années plus tard, il y a 500 000 ans, nos ancêtres en tiraient 40 cm, 4 fois plus. Il y a 40 000 ans, c'était 2 mètres, et plus de 6 mètres une dizaine de milliers d'années plus tard. Cette efficacité croissante de la taille de la pierre reflète des changements dans les facultés d'adaptation de l'espèce humaine et de ses ancêtres. Longtemps réduits sur le continent africain à des petits groupes vivant de cueillettes et se nourrissant de charognes, en diversifiant son outillage et ses activités, l'humanité est parvenue à s'acclimater à des latitudes plus froides. Toute cette évolution fut aussi jalonnée par la maîtrise du feu il y a 500 000 ans et la pratique de la chasse, révélée par les armes de jet il y a 400 000 ans. Durant les dernières dizaines de milliers d'années, l'outillage s'est progressivement diversifié et spécialisé. L'humanité a inventé l'aiguille à chat en os ou en bois de renne, qui permet de confectionner des vêtements, les pirogues, les harpons, les propulseurs de sagaies. Plus spectaculaire encore fut la période d'adaptation aux modifications climatiques survenues 13 000 ans avant notre ère. En moins de 5 000 ans, de moins 12 000 à moins 7 000, se propagèrent l'utilisation de l'arc à flèche, du filet de pêche, des pièges de chasse, ainsi que la pratique de la navigation et, dans certaines régions, la fabrication de céramique pour la cuisson et la conservation des aliments. C'est aussi à cette époque que le chien, domestiqué de longue date, fut utilisé pour la chasse. Et enfin, arrivèrent deux des découvertes parmi les plus exceptionnelles de l'histoire de l'humanité, l'agriculture et l'élevage. On voit donc que si les premières techniques mises au point par l'humanité ont progressé très lentement, le rythme de ces progrès n'a cessé d'aller en accélérant. Chaque découverte a ouvert de nouvelles possibilités aux êtres humains pour améliorer la maîtrise de leur environnement. Chaque découverte a fait progresser ce qu'on pourrait appeler les forces productives primitives de l'humanité. Il est impossible aujourd'hui de dire précisément comment vivaient les premiers hominidés, puis les premiers hommes qui étaient chasseurs-cueilleurs. Comment étaient organisés ces petits groupes épars durant cette très longue période qu'on vient d'évoquer et qu'on appelle le paléolithique. Mais il existe une quasi-unanimité chez les préhistoriens pour considérer que leur mode de vie devait ressembler à celui des chasseurs-cueilleurs des sociétés que l'on connaît aujourd'hui. Justement parce que leur mode de subsistance leur ressemble. Il devait s'agir de sociétés très égalitaires, ne présentant aucune différenciation profonde entre leurs membres, si ce n'est entre hommes et femmes, à cause de la maternité, ou entre jeunes et vieux, pour des raisons évidentes. Plusieurs historiens, préhistoriens, ont parlé de communisme primitif à propos de cette phase de l'histoire de l'humanité. Il ne s'agit pas de voir dans ces sociétés de chasseurs-cueilleurs un paradis perdu, ni d'idéaliser ce que l'on connaît et peut imaginer des rapports entre leurs membres. Encore une fois, dans ces sociétés de pénurie relative, la vie était bien souvent très précaire. Le terme de communisme primitif illustre simplement l'idée qu'à un degré de développement des forces productives très primitif, les sociétés humaines ne pouvaient pas s'organiser autrement que de façon très égalitaire, ne serait-ce que parce que la survie de chacun dépendait directement de la survie du groupe. La suite de l'histoire de l'humanité a vu se succéder bien d'autres organisations sociales, toutes caractérisées par une différenciation et des inégalités sociales. La diversité et surtout l'évolution de ces sociétés ne peuvent se comprendre qu'en raisonnant d'abord à partir du degré de développement des forces productives de chacune de ces organisations sociales. C'est entre moins 10 000 et moins 7 000 au Moyen-Orient, dans la région dite du croissant fertile, qu'apparurent les premières populations maîtrisant l'agriculture et l'élevage. La définition de cette zone, le croissant fertile, où s'est enclenché un des plus grands bouleversements de l'histoire de l'humanité, a évolué au cours du temps avec les découvertes archéologiques. Aujourd'hui, les archéologues situent cette zone en la faisant partir de la vallée du Jourdain, en Palestine, jusqu'au sud-est de l'actuelle Turquie et le nord des plaines du Tigre et de l'Euphrate, pour finir au pied du Zagros, une chaîne de montagnes iranienne. D'autres foyers indépendants d'apparition de l'agriculture et de l'élevage suivirent. Dans le sud-est asiatique, dans le nord-est de la Chine actuelle, en Amérique du Sud, au Mexique actuel et encore en Afrique subsaharienne. À partir de ces multiples foyers, en quelques millénaires, l'agriculture s'est propagée presque partout sur la planète. En Europe, déjà peuplée de chasseurs-cueilleurs par des migrations précédentes venues d'Afrique, l'agriculture fut apportée par des populations originaires du Moyen-Orient. Il est probable que l'agriculture a été découverte parce que certaines populations nomades de chasseurs-cueilleurs avaient pris l'habitude de se fixer périodiquement près d'endroits qui abondent en produits de la nature et étaient aussi des lieux de passage réguliers de troupeaux sauvages. En sélectionnant parmi les plantes qu'ils cueillaient celles qui leur apportaient le plus de nourriture et le plus facilement, ils auraient provoqué ainsi inconsciemment une sélection artificielle des espèces agricoles, en l'occurrence, au Moyen-Orient, des céréales comme le blé, l'orge, le seigle, mais aussi des lentilles, des pois chiches ou du lin. Le même phénomène de domestication et de sélection a sûrement eu lieu avec les animaux sauvages les plus dociles. Ainsi se sont réalisées les premières sélections humaines artificielles des espèces, ces chasseurs-cueilleurs se comportant inconsciemment en premiers agriculteurs et éleveurs. Si pour certaines peuplades, donc, la sédentarisation a donc précédé l'agriculture et même la précipité, c'est en revanche l'adoption consciente de l'agriculture et de l'élevage, puis la propagation de ce mode de subsistance qui ont entraîné la sédentarisation de presque toute l'humanité. Au même moment, fut mis au point une nouvelle technologie dans le travail de la pierre, le polissage, qui donne son nom à cette nouvelle période de l'histoire de l'humanité qu'on appelle le néolithique, ou nouvel âge de la pierre. En éliminant les points de fragilité, le polissage d'une hache de pierre, par exemple, augmente sensiblement sa résistance au choc. Cela permit la mise au point d'une gamme d'outils destinés au travail du bois. Équipés de haches en pierre polie, les premières populations agricoles ont pu conquérir de nouvelles terres de culture et d'élevage par le défrichement des forêts. La première agriculture des régions boisées fut réalisée grâce à la technique dite de l'abatis brûlis. Une clairière était aménagée dans la forêt par l'abattage des arbres les plus frêles, qui n'étaient même pas dessouchés. Les feuillages, branchages et troncs morts, une fois desséchés, étaient brûlés sur place pour que les éléments nutritifs contenus dans les cendres fertilisent le sol. Après 2 à 3 ans de culture, le terrain était laissé à la repousse de la forêt qui en restaurait la fertilité naturelle en quelques dizaines d'années. Cette technique de la jachère forêt aurait été un tel succès qu'elle donna lieu à un important essor démographique des populations néolithiques. Car l'alimentation plus régulière et plus importante et le mode de vie sédentaire lié à l'agriculture et l'élevage ont aussi entraîné un important accroissement de la fécondité des femmes. On estime que la population mondiale, composée de quelques millions d'individus aux époques antérieures, passa à près de 50 millions au néolithique. Cela signifia une spectaculaire augmentation des forces productives. Les transformations sociales furent telles qu'un archéologue australien de l'entre-deux-guerres, Gordon Child, utilisa le terme de révolution néolithique pour caractériser ce bouleversement. Ne plus avoir à déplacer son campement constamment en suivant les saisons changea radicalement l'existence des êtres humains. Pouvoir s'installer de façon durable permit de stocker de la nourriture pour anticiper les mauvais jours, les mauvaises récoltes. Cela permet aussi d'accumuler des outils, donc d'avoir des instruments de travail plus variés et plus différenciés. Certaines tribus de chasseurs-cueilleurs nomades n'ont souvent qu'un simple outil multi-usage. Les aborigènes du centre désertique de l'Australie, par exemple, ont un propulseur qu'ils utilisent pour lancer leurs jets, mais dont la forme est telle qu'elle leur sert aussi de récipient et de petits outils pour travailler le bois. Avec la sédentarisation, la diversification des outils prit un essor considérable. La révolution néolithique, fruit du développement technique de l'humanité, changea l'humanité elle-même en profondeur, non pas biologiquement, mais socialement. La progression de la productivité du travail humain, en plus de permettre l'augmentation de la population, fit apparaître pour la première fois dans l'histoire, à grande échelle et de façon durable, ce que Marx a appelé un surproduit social. Le travail permit désormais non seulement d'assurer la subsistance de tous les membres de la société, mais également d'accumuler au sens général du terme. Accumuler de la nourriture, mais aussi accumuler de façon plus subtile, en permettant à certains membres de la société de s'adonner en partie ou totalement à d'autres activités que celles nécessaires à la production de nourriture. L'essor des premiers artisans spécialisés, mais aussi l'apparition des premiers travailleurs intellectuels, témoignent d'une division du travail permanente et institutionnalisée. Cette transformation fondamentale allait marquer définitivement toutes les sociétés humaines. La division du travail fut le socle du progrès, car elle permit la spécialisation, l'avancement le plus rapide possible des connaissances et du savoir-faire, et leur transmission. On peut même dire qu'une part considérable des forces productives, est au bout du compte contenue dans cette division du travail et dans le changement de mentalité qu'elle implique, c'est-à-dire dans le savoir-faire de chaque individu organisé à l'échelle de toute la société. Cette division du travail entraîna la première urbanisation, la première grande division entre ville et campagne, et à partir de laquelle allait naître la civilisation. C'est aussi sur cette base que s'imposa la propriété privée des moyens de production, à commencer par celle de la terre, que les inégalités sociales s'enracinèrent, que l'exploitation de l'homme par l'homme se répandit et que la société se divisa en classes. Car il fallait que les forces productives aient atteint un niveau de développement tel qu'ils permettent l'apparition d'un surproduit économique suffisamment régulier et assuré pour que se mette en place une division du travail avancée et des classes sociales, avec des exploités et des exploiteurs. Propriété privée des moyens de production et exploitation firent entrer l'humanité dans l'ère des sociétés de classe, avec tout ce que cela signifie en termes d'oppression et de violence institutionnalisée. Mais compte tenu du degré de développement des forces productives, ce mal, si on peut parler ainsi, fut incontournable pour que les sociétés humaines puissent continuer de progresser. Ainsi, par exemple, en Égypte, il y a 6000 ans, la paysannerie, qui pratiquait la culture de décrue le long du Nil, travaillait des lopins de terre qui lui étaient concédés par le pharaon, possesseur de la terre. En échange, elle devait effectuer de lourdes corvées pour entretenir les aménagements hydrauliques et construire les temples, les tombeaux et les pyramides. Des impôts en nature étaient prélevés pour subvenir aux besoins du pharaon, de son entourage, du clergé et de l'administration civile et militaire, mais aussi pour nourrir les ouvriers et les artisans d'État ou pour constituer des stocks de sécurité pour faire face aux irrégularités des crues du fleuve. Le cas de l'Égypte antique met en évidence une nouvelle institution dans l'histoire de l'humanité, l'État, une institution qui s'élève au-dessus de la société pour en dominer les contradictions nées du développement des classes sociales aux intérêts opposés. En Égypte, au fur et à mesure du développement d'une agriculture toujours plus élaborée, réclamant une gestion des crues à une échelle toujours plus grande, il fallut une organisation sociale toujours plus large. L'unification des villages, puis des cités-États sous la coupe d'un pouvoir central, fut une nécessité imposée par la gestion des crues du Nil pour partager l'eau tout le long des 1000 kilomètres que le fleuve parcourt d'Assouan à la Méditerranée. Et le royaume du Sud, qui pouvait contrôler l'irrigation de celui du Nord, parce qu'il se situait en amont du fleuve, imposa sa domination, puis l'unification du pays vers -3200. Dans l'Égypte antique, la petite minorité vivant du travail de l'immense majorité avait un rôle essentiel, notamment la caste de ceux qui devaient gérer l'irrigation à partir de la connaissance du régime des eaux du Nil. Par une observation attentive et minutieuse des étoiles, ils furent les premiers, au début du 3e millénaire avant notre ère, à remarquer que les constellations, qui semblent se déplacer chaque nuit, reviennent exactement au même endroit du ciel, tous les 365 jours. Ils inventèrent ainsi le premier calendrier exact, non plus fondé sur les mois lunaires, ce qui donnait un calendrier sans cesse décalé par rapport aux saisons, mais sur les étoiles, et donc indirectement sur le soleil, ce qui permit de réelles précisions comme prévoir le début des crues du Nil. Ce sont aussi ces prêtres administrateurs égyptiens, comme peu avant eux leurs homologues sumériens de Mésopotamie, et pour les mêmes raisons, de gestion et d'administration de l'État et de l'économie, qui inventèrent l'écriture au 3e millénaire avant notre ère, celle dite cunéiforme à Sumer et les hiéroglyphes en Égypte. Les sociétés de classe, dont l'Égypte antique et Sumer avaient été des grands précurseurs, allaient se développer au rythme de l'évolution des forces productives et des conflits entre les classes sociales, entre exploités et exploiteurs. Comme Marx et Engels ont écrit au tout début de leur manifeste communiste, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte de classe. Voilà comment Marx exprima le lien entre les forces productives d'une société donnée et ce qu'il nomma la superstructure idéologique. Je le cite. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. C'est Marx, on ne peut pas se tromper. Hein. Les religions, les idées de nation, de démocratie, de république, et même l'idée du socialisme, toutes les idéologies sont l'expression d'une réalité sociale. Les idées ne tombent pas du ciel et rien ne nous vient en songe, disait un des premiers marxistes italiens à la fin du XIXe siècle, Labriola. Et si des idées ont une audience, sont reprises par des milliers, des millions d'êtres humains, c'est qu'elles répondent à une nécessité sociale. Produit des sociétés divisées en classes, les idéologies, en regroupant, en mettant en mouvement de façon coordonnée des masses d'individus, agissent en retour sur cette réalité sociale. Certaines idées sont révolutionnaires et progressistes parce qu'elles sont porteuses des éléments d'avenir de la société, annoncent et préparent son développement futur. D'autres sont réactionnaires, expriment au contraire le poids du passé et freinent le développement historique, voire tentent de le faire revenir en arrière. Bien souvent, les premières sont portées par les classes sociales qui revendiquent le pouvoir et les secondes par celles qui l'ont déjà et cherchent à le conserver. Mais la réalité sociale ne cesse de changer et une même idée de révolutionnaire à ses débuts peut devenir réactionnaire au fil de l'évolution de la lutte des classes. Les idées républicaines modernes furent portées par la bourgeoisie, qui luttait pour s'affranchir du pouvoir de la noblesse. Il y eut d'abord les républiques urbaines bourgeoises du Moyen-Âge, où dominaient les riches familles patriciennes et où le petit peuple n'avait pas son mot à dire. À l'intérieur des villes médiévales, quand elle était parvenue à échapper au pouvoir du seigneur local, la bourgeoisie était chez elle. Elle était la classe dominante et la république censitaire donnait un cadre institutionnel adapté à sa domination collective. Lors des combats ultérieurs, à l'échelle cette fois-ci non plus d'une ville, mais d'un royaume, la bourgeoisie mit des siècles à se sentir suffisamment forte pour réclamer le pouvoir, et a fortiori un pouvoir qu'elle n'aurait pas à partager. Dans la lutte d'indépendance des Provinces-Unies, les ancêtres des Pays-Bas, à la fin du XVIe siècle, la bourgeoisie eut besoin de placer un noble à la tête de sa révolte, puis de son État. Un demi-siècle plus tard, en Angleterre, après une république de courte durée, dirigée par Cromwell, la bourgeoisie anglaise, encore trop faible, préféra partager le pouvoir avec l'aristocratie, sous couvert de la monarchie. Ce n'est qu'avec la Révolution française de 1789, sous la pression des événements, et plus précisément sous la pression des classes populaires en effervescence, que la bourgeoisie, suffisamment puissante et sûre d'elle-même, mena la lutte jusqu'au bout et instaura la République. Mais même en France, cette République mit près d'un siècle à s'imposer, car ayant pris les rênes du pouvoir, la bourgeoisie se méfiait des mobilisations populaires, du risque qu'elle puisse plus facilement s'exprimer dans le cadre d'une République. Pendant tout le XIXe siècle, la majorité de la bourgeoisie s'affichait royaliste, et les divergences entre bourgeois s'exprimaient à travers les différentes tendances royalistes. L'idée de nation fut aussi portée par la bourgeoisie. Face aux États féodaux morcelés, aux multiples barrières douanières permettant à une noblesse parasite d'assurer ses revenus, la bourgeoisie brandissait le drapeau de l'unité nationale. Ce nationalisme, du XVIIIe et du XIXe siècle, était progressiste, d'un point de vue économique, car il signifiait la suppression des particularismes régionaux et la création d'un marché national bien plus large et unifié, mais aussi d'un point de vue politique, car il était le drapeau du combat contre l'Ancien Régime. Mais une fois au pouvoir, une fois le pouvoir politique de la bourgeoisie assuré, le nationalisme est devenu le drapeau du règne de cette bourgeoisie et de l'oppression des peuples soumis à la nation bourgeoise dominante. Avec la chasse aux colonies, qui marqua la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, le nationalisme devint le drapeau des rivalités entre grandes puissances impérialistes pour le partage du monde. Le nationalisme a toujours été une idée bourgeoise, et il a évolué avec elle. De progressiste, quand la bourgeoisie balayait le vieil ordre féodal, il est devenu profondément réactionnaire, depuis qu'elle s'en sert pour marquer son pouvoir sur le monde et diviser les prolétaires entre eux. Dire que ces idéologies sont celles de la bourgeoisie ne signifie pas que tous les bourgeois de toutes les époques les ont défendues, ni que seuls des bourgeois peuvent les reprendre. Cela signifie qu'elles correspondent aux intérêts généraux de la classe bourgeoise qui en est le fondement dans la société, les idées devant nécessairement s'appuyer sur des groupes d'individus, des classes qui ont des intérêts communs, car les idées ne tombent pas du ciel. Ces idéologies, conformes aux intérêts d'une classe dominante, sont relayées par bien des moyens et inondent les consciences, même celles d'une grande partie des exploités. On le constate chaque jour dans la société capitaliste. Mais cela a été le cas également pour la bourgeoisie avant qu'elle n'arrive au pouvoir. Elle aussi fut subjuguée par les idées de la classe dominante d'alors, la noblesse. La pièce de Molière, Le bourgeois gentilhomme, qui décrit un bourgeois rêvant de devenir noble, en témoigne. Le prolétariat, né de la révolution industrielle, fut une classe combative pratiquement dès son apparition. Même si ces combats ne visaient pas au début à s'emparer de la direction de la société, ils cherchaient au moins à défendre ses intérêts immédiats en tant que classe distincte. Les premières luttes du prolétariat en Angleterre, dans la première moitié du XIXe siècle, ne peuvent qu'impressionner tous ceux qui aujourd'hui se sentent dans le camp des travailleurs. Au fil de ces luttes, la classe ouvrière sut de plus en plus mettre en avant ses propres intérêts et ses propres idées. Au nationalisme de la bourgeoisie, le prolétariat a très tôt opposé l'internationalisme. Car le capitalisme, en poussant vers la misère des millions de travailleurs partout dans le monde, a mis sur les routes et dans les entreprises des prolétaires venus de partout. La classe ouvrière n'est pas une classe nationale. Elle a toujours été constituée d'exploités venant de tous les pays, évidemment essentiellement des régions et pays les plus pauvres vers les centres les plus riches. Mais on est toujours le pauvre d'un autre. Et la roue de l'histoire tourne. Les pays d'immigration sont parfois devenus des pays d'émigration et vice-versa. Face au républicanisme, le prolétariat a mis en avant le socialisme, c'est-à-dire non pas une forme d'organisation politique du pouvoir, nationale qui plus est, mais une forme d'organisation de la société et de la production à l'échelle mondiale. À la devise bourgeoise, les hommes naissent libres et égaux en droit, le mouvement ouvrier a répondu par la lutte pour l'égalité sociale, la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme et donc le renversement de la bourgeoisie, son expropriation et la collectivisation des moyens de production. Mais le mouvement ouvrier n'a pas fait qu'exprimer instinctivement des idées correspondant à ses intérêts immédiats, même généraux. Dans l'histoire, les classes précédentes se sont battues sans conscience ou avec une conscience partielle du développement historique général dans lequel leur combat s'insérait. La conception matérialiste de l'histoire, établie par Marx et Engels à la veille de la vague révolutionnaire de 1848, apporta au prolétariat une conscience de l'ensemble du processus historique dans lequel se menait son combat. La classe ouvrière industrielle émergeait. Elle menait ses premières luttes. et les idées du socialisme scientifique furent accueillies par nombre de militants ouvriers comme un hôte attendu, pour reprendre une expression de Marx. En s'assimilant le marxisme, le mouvement ouvrier se dotait d'une expression politique consciente du processus historique et avait là une arme indispensable à son combat pour l'instauration d'un ordre social nouveau. Cette conscience rendit le mouvement ouvrier marxiste capable de se battre aussi pour des revendications bourgeoises, comme la République, l'unité et l'indépendance nationale, quand celles-ci étaient progressistes. Mais en préservant l'indépendance politique du prolétariat, en ayant conscience qu'il s'agissait d'une alliance ponctuelle sur un objectif précis avec un ennemi fondamental de classe. Ainsi, en Russie, le parti bolchevique prit largement part à la lutte contre le tsarisme, à côté d'autres forces, y compris bourgeoises. Il le fit sans hypothéquer la position et les intérêts du prolétariat, en maintenant l'indépendance politique de la classe ouvrière. Et en 1917, après avoir abattu l'ancien régime, il a fallu 8 mois d'une lutte de classe d'une intensité politique exceptionnelle pour que le prolétariat postule au pouvoir et l'arrache à la bourgeoisie. Mais 8 mois seulement, et pas toute une période historique. Nous sommes bien loin aujourd'hui d'une situation révolutionnaire comme celle de la Russie de 1917. Nous vivons depuis plusieurs dizaines d'années une situation de recul important du mouvement ouvrier à l'échelle mondiale. Et comme à chaque fois que la classe ouvrière a été absente politiquement des combats qui se menaient, défendre le drapeau du communisme signifie défendre des idées à contre-courant. Pourtant, si le capitalisme du temps de Marx, en développant le travail collectif et les forces productives, avait posé les prémices économiques d'une organisation sociale supérieure, aujourd'hui, les conditions objectives d'une organisation socialisée de la production à l'échelle mondiale sont plus que mûres. Pour fabriquer le moindre objet, il faut que des travailleurs interviennent aux quatre coins du monde. Avec les moyens techniques actuels, les constructions les plus spectaculaires s'élèvent à une vitesse fantastique. Les découvertes scientifiques et les prouesses technologiques sont époustouflantes, du cœur artificiel à la sonde Rosetta. Au regard de ce que pourraient apporter à tous les habitants de la planète les progrès scientifiques, la barbarie de l'organisation sociale actuelle n'en est que plus révoltante et indigne de l'humanité. Pour libérer les forces productives et mettre leur potentiel au service de l'intérêt général, il faudra exproprier la bourgeoisie. La seule classe sociale à en être capable est la classe ouvrière. Elle est concentrée dans les entreprises et dans les grandes villes, qui sont les centres du pouvoir. Et à la différence de l'époque de Marx, ce n'est pas dans une poignée de pays qu'elle est présente, mais partout sur la surface du globe. Et comme l'affirmait Marx, la classe ouvrière n'a rien à perdre que ses chaînes. Elle peut et elle doit entraîner à sa suite le reste des opprimés dans ses combats contre la bourgeoisie. Mais cet acte-là, ou plutôt ces actes de millions de prolétaires et d'exploités à travers le monde, ne pourront être que des actes conscients. C'est pour cela qu'il est vital de défendre et de propager aujourd'hui les idées du socialisme scientifique, pour qu'elles s'incarnent dans des travailleurs conscients, regroupés dans des partis et dans une internationale révolutionnaire qui représenteront, pour reprendre une formule de Trotsky, l'expression consciente du processus historique inconscient, c'est-à-dire de l'aspiration spontanée et instinctive du prolétariat à reconstruire la société sur des bases communistes. Il n'est pas rare de nous entendre dire que nous sommes utopiques. Mais toute l'histoire de l'humanité, de ses découvertes, de ses transformations sociales, est jalonnée de bouleversements et de révolutions. À chaque fois qu'une étape décisive approchait, le poids du passé a pesé sur le cerveau des vivants. Heureusement, il y a toujours eu des individus ayant la conscience de la nécessité de rompre avec le passé et l'audace d'aller de l'avant, ce qui signifie toujours faire un saut dans l'inconnu. Ces utopistes ont fait que leurs idées deviennent des réalités, car leurs anticipations répondaient aux transformations qui mûrissaient dans les profondeurs de la société. Si c'est cela, être utopique, alors il y a des critiques que nous prenons comme des compliments.